Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit, Alexandre Lemaire.
Bonsoir. L'Ukraine et la Moldavie reconnues candidates à l'Union européenne. Les 27 unanimes ce soir à Bruxelles. Un signal fort pour la Russie. Un moment historique. Nous serons au sommet européen dans un instant. Pendant ce temps, Elisabeth Borne reste aux commandes d'un exécutif en panne. Il manque toujours la bonne formule pour gouverner avec la nouvelle Assemblée. La première ministre contestée dans son camp, mais elle s'accroche, vous l'entendrez. Y aura-t-il des billets de train pour tout le monde cet été? Les réservations sont prises d'assaut. La SNCF ajoute des rames. La flambée des prix à la pompe fait de plus en plus souvent préférer le train. Bon anniversaire, Zizou. Zinedine Zidane a 50 ans ce jeudi. Guy Lacombe reviendra en fin de journal sur son fabuleux parcours. Une météo toujours très orageuse avec 26 départements en vigilance orange sur un quart nord-est. L'invité éco à 22h20, on recevra le patron de LUM, une start-up dédiée au bien-être mental en entreprise. Et puis juste avant la libre antenne, les unes de la presse pour demain matin.
Europe 1.
Ce soir donc, l'histoire s'écrit à Bruxelles. Les 27 ouvrent la porte à un futur élargissement à l'Est. Ils viennent d'accorder à l'Ukraine et à la Moldavie voisine le statut de candidat officiel à l'Union européenne. 4 mois après le début de la guerre, le président ukrainien Zelensky salue un moment unique et historique, Arthur Delaborde.
Oui, un geste très symbolique décidé ce soir à l'unanimité des 27 et qui était, il faut le rappeler, totalement inimaginable avant la guerre. C'est donc un moment très important aux yeux d'Emmanuel Macron.
C'est une perspective européenne que nous reconnaissons à l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie, ce qui est donc un signal très fort vis-à-vis de la Russie et dans le contexte géopolitique que nous évoquions, et avec le choix fait pour l'Ukraine et la Moldavie d'accorder donc ce statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Tout cela, nous le devions au peuple ukrainien qui se bat pour défendre nos valeurs, leur souveraineté, leur intégrité territoriale.
Pour autant, cette procédure d'adhésion s'annonce longue et devrait prendre plusieurs années. L'Ukraine va devoir réformer son économie et ses systèmes administratifs et judiciaires lorsque la guerre sera terminée. Les 27 insistent d'ailleurs dans leur déclaration sur ce qui touche au respect de l'état de droit et à l'indépendance de la justice. L'intégration européenne passera donc par de nombreux efforts dès que la reconstruction du pays sera possible.
Merci Arthur Delaborde à Bruxelles pour Europe 1. L'Ukraine et la Moldavie candidate à l'Union européenne, c'est l'information de la soirée. La Géorgie réclame maintenant le même traitement. Elle veut travailler avec détermination pour obtenir le même statut. Emmanuel Macron a donc mis la crise post-législative en mode pause. Le président participe aujourd'hui et demain, vous l'avez entendu, à ce sommet européen qui se révèle historique. Alors qui tient les commandes à Paris ? C'est une première ministre contestée. Elisabeth Borne sait qu'elle n'a même pas été citée hier soir dans l'allocution du président. Alors elle presse le pas. Avant le week-end, elle aura rencontré les nouveaux patrons de groupe à l'Assemblée. Elisabeth Borne était ce soir aussi sur LCI, William Molinier, et elle s'accroche.
Oui, Elisabeth Borne a voulu montrer qu'elle comptait jouer sa partition, en tout cas essayer, malgré une composition politique défavorable à l'Assemblée nationale. Le bruit de l'hémicycle, le bras de fer entre les députés et le gouvernement, les oppositions annoncées comme virulentes, tout cela ne l'impressionne pas.
Dans le précédent quinquennat, vous savez, quand j'ai porté la réforme de la SNCF, je peux vous assurer qu'il y avait déjà des gens qui étaient assez vocaux, ou la réforme de l'assurance chômage. Voilà, ça a donné lieu à des expressions assez vocales aussi à l'Assemblée. Enfin, moi, vous savez, ça ne me fait pas peur. Ça a plutôt tendance à me consolider, à me donner du calme quand j'entends des gens hurler autour de moi.
La première ministre veut lisser son image de technicienne en réponse aux reproches en creux de François Bayrou, avec qui, dit-elle, elle s'est expliquée. Elisabeth Borne se veut plus que jamais politique, jusqu'à mettre en avant son parcours personnel, chose qu'elle n'avait jusqu'à présent jamais fait.
On est un pays où on peut être fille d'immigrés, où on peut avoir perdu son père à 11 ans et le pays vous tend la main pour vous permettre de faire des études et vous êtes préfète, puis vous êtes ministre et vous êtes même première ministre.
Elisabeth Borne continuera de recevoir demain les représentants des groupes politiques de l'Assemblée nationale. Elle se dit persuadée de pouvoir trouver au cas par cas des majorités, des alliances pour voter les lois d'intérêt général. comme le bouclier tarifaire ou la revalorisation des pensions de retraite.
William Molinier, 57% des Français souhaitent qu'Elisabeth Borne quitte Matignon. Sondage Odoxa, près des deux tiers considèrent comme une bonne chose la perte de la majorité absolue à l'Assemblée par le camp présidentiel. Allez, un peu plus loin de la politique maintenant, les vacances qui approchent et les réservations qui se compliquent, en particulier si vous cherchez toujours des billets de train pour cet été, les places ont été prises d'assaut. Tout n'est pas perdu, la SNCF a rajouté des rames car 8 millions de billets ont déjà été vendus pour juillet et août, Maud Descamps.
Oui, car avec la hausse du prix du carburant, les Français sont plus nombreux à se tourner vers le train pour se déplacer cet été. Tous les trains sont complets pour les jours de grand départ. Et ce matin, le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a annoncé 500 000 places supplémentaires mises en vente.
On rajoute des rames, on fait des compositions doubles, on met deux rames à la fois. C'est grâce à ça qu'on va faire tourner 500 000 places supplémentaires. Je veux saluer la mobilisation des cheminots parce qu'eux vont travailler pendant que les Français seront en vacances. On est au maximum et je le redis, il y a des places disponibles.
La SNCF n'est pas la seule à mettre les bouchées doubles pour permettre aux Français de partir cet été. Air France, par exemple, s'attend à accueillir 110 000 passagers par jour à Roissy-Charles de Gaulle. C'est la totalité de la flotte de la compagnie qui est mobilisée pour assurer le programme de vol. Près de 250 appareils qui vont desservir 196 destinations. Air France qui a également renforcé ses effectifs avec l'embauche de 300 pilotes et 200 mécaniciens supplémentaires, mais aussi 200 agents d'escale saisonniers à Paris-Charles de Gaulle et à Orly. Mais attention, de nombreuses compagnies rencontrent des problèmes de main-d'œuvre et de nombreux vols risquent d'être annulés cet été.
Maud Descamps, l'arrivée de l'été n'empêche pas le Covid de reprendre ses aises. Les cas repartent à la hausse. Ils accréditent l'arrivée d'une 7e vague en pleine période estivale. Et les derniers chiffres sont parlants, Yasmine Akatou.
Oui, sur les dernières 24 heures, il y a eu 78 000 tests positifs enregistrés. C'est 50% de plus que jeudi dernier. Des chiffres en hausse depuis plusieurs semaines qui se répètent. Percute maintenant sur l'hôpital. Il y a eu en moyenne 635 hospitalisations chaque jour sur la semaine écoulée. C'est 30% de plus en 7 jours. Cette reprise épidémique est due au variant BA5 qui semble plus contagieux que son cousin BA2. Pour autant, il n'est pas question de nouvelles mesures, assure Brigitte Bourguignon. La ministre de la Santé s'exprimait devant une pharmacie où elle venait de recevoir son second rappel.
Les mesures actuelles suffisent, mais nous surveillons évidemment chaque jour cette situation pour reprendre d'autres mesures s'il fallait et s'il en était besoin. Si vous sentez quand même qu'il y a promiscuité dans les transports notamment, et chacun le sait, il est recommandé fortement de mettre le masque. C'est une protection qui vous est personnelle, mais c'est aussi une protection pour les autres. Donc voilà ce que je recommande aujourd'hui.
Le gouvernement souhaite aussi accélérer la campagne de vaccination des seniors. Sachez qu'entre 8 et 9 millions des 60-79 ans n'ont toujours pas reçu leur second rappel. Toutes les personnes éligibles vont recevoir un mail ou un message sur leur espace Amélie pour leur rappeler d'aller se faire vacciner.
Yasmina Katou, tandis que l'Agence européenne des médicaments approuve le vaccin anti-Covid de Valneva, entreprise franco-autrichienne implantée à Nantes. C'est donc le 6e vaccin recommandé pour les adultes dans l'Union européenne. 330 cas confirmés de variole du singe en France. Et pour la première fois, une femme figure parmi ces cas positifs. L'Organisation mondiale de la santé appelle la quarantaine de pays touchés à la vigilance en attendant de décider si elle déclenche ou pas son plus haut niveau d'alerte. Parcoursup est entré ce jeudi dans une nouvelle phase pour les lycéens, la phase dite complémentaire. Elle s'adresse à tous les élèves de terminale qui n'ont pas encore trouvé la perle rare, autrement dit une formation pour l'année prochaine qui correspondrait à leurs vœux d'orientation. S'ils sont toujours dans la nature, ils peuvent donc dès maintenant formuler de nouveaux souhaits dans des formations où il reste bien sûr de la place, Louis Salé.
Oui, et ils peuvent formuler jusqu'à 10 vœux dans des établissements auxquels ils n'avaient pas postulé lors de la phase principale. Pour faire leur choix, ils ont accès au nom de toutes les formations qui peuvent encore accueillir des étudiants. Mais attention, cette liste s'allonge au fur et à mesure que des places se libèrent. Des établissements plus appréciés peuvent très bien s'y ajouter plus tard. Il y a même des formations sélectives qui deviennent accessibles à la fin de l'été. Sophie Laborde-Baleine est conseillère d'orientation au sein du réseau Ton Avenir.
J'invite les élèves à ne pas se positionner sur les 10 vœux en totalité et de les rentrer au fil de l'eau, au fil de l'été. Il faut savoir que beaucoup de choses changent pendant l'été, donc il faut garder espoir. C'est tout à fait possible d'être admis, même dans une formation sélective, à la fin du mois d'août.
Quand un vœu est formulé dans cette phase complémentaire, l'établissement concerné répond dans un délai de 8 jours. Cette procédure est accessible aux candidats jusqu'à mi-septembre, tandis que la phase principale, elle, se termine le 15 juillet.
Louise Salé.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Nous sommes aux États-Unis où cette journée de jeudi a été marquée par une décision majeure sur le contrôle des armes à feu. Un mois seulement après la tuerie d'Uvalde, la Cour suprême américaine invalide une loi de l'État de New York qui restreignait le port d'armes par 6 voix sur 9. Oui, les juges de la plus haute juridiction américaine consacrent le droit de sortir armé de son domicile. Alexis Guilleux, vous êtes à New York pour Europe 1. Terrible revers, Alexis, pour les partisans du contrôle et cri de victoire pour le lobby des armes.
Oui, la NRA, le plus gros lobby port d'armes des États-Unis, s'est rapidement félicité de cette décision de la Cour suprême. Les 6 juges conservateurs estiment que la loi new-yorkaise va à l'encontre des 2e et 14e amendements de la Constitution. La conclusion est lapidaire. Un citoyen américain n'a pas besoin d'avoir un motif légitime pour porter une arme à l'extérieur de chez soi. Une façon pour la Cour suprême de consacrer le port d'armes hors du domicile et donc du cercle privé. La gouverneure de New York, Kathy Hochul, parle d'un jour sombre.
C'est choquant, vraiment choquant. Cette décision n'est pas seulement irresponsable, elle est aussi condamnable. Ce n'est pas ce que les New Yorkais veulent.
Alors cet avis est partagé par Joe Biden, puisque le président estime que la décision de la Cour suprême va à l'encontre du bon sens et de la Constitution. Le maire de New York redoute, lui, une vague de violence par arme à feu, car cette loi new-yorkaise qui imposait d'obtenir un permis et donc un motif légitime pour sortir dans la rue avec une arme est l'une des plus strictes des États-Unis et elle est en vigueur depuis le début du XXe siècle et la mégapole a l'un des taux d'homicide par arme à feu les plus faibles du pays. Et puis, il y a tout de même une certaine ironie, car les sénateurs, démocrates et républicains sont sur le point de voter en ce moment une loi pour renforcer le contrôle des armes à feu dans un pays, vous l'avez dit, encore traumatisé par les récentes fusillades de masse.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 à New York. On part maintenant pour l'Ukraine, qui est ce soir, vous l'avez entendu, candidate à l'Union européenne. L'armée russe continue de grignoter du terrain dans l'est du pays. Elle suit une logique de terre brûlée. Les villes, les villages sont rasés à coups d'artillerie. Après 4 mois de guerre, des Ukrainiens qui avaient pourtant décidé de rester coûte que coûte, eh bien renoncent finalement à rester dans leur pays. Notre envoyé spécial Nicolas Tolef l'a constaté dans la région de Mykolaïv, une ville stratégique, une ville bombardée sans relâche et où des Ukrainiens se résignent à l'exil. Reportage.
86 noms, l'appel de ceux qui veulent partir, monter dans les bus. Ils craquent. Pourquoi ? Voilà pourquoi.
Devant nos yeux, un immeuble de 5 étages a brûlé.
Carbonisé, tout y est passé.
L'immeuble a...
Une roquette à 200 mètres.
Bien, tiens donc.
C'est arrivé juste à côté.
Les roquettes seront neuves à exploser, toutes les 5 à 10 minutes.
Là, je n'en peux plus, tout simplement. C'est terrible, ça prend les nerfs, je ne veux plus vivre ici alors que c'est chez moi, alors que ma famille, mes parents sont enterrés ici. Tout est horrible.
L'heure est arrivée.
Dans le bus blanc, accès aux personnes avec un handicap et ceux avec des animaux. Pour ceux qui n'ont pas de handicap et pas d'animaux, c'est le 2e autobus. Pas d'inquiétude, il y a assez de place.
Direction la Moldavie, Chisinau, dans 10 heures. Et plus tard, pour beaucoup, des avions pour s'éloigner encore. Yevgeny accompagne Valentina, sa mère, près de 80 ans.
On n'a plus d'économie, plus de salaire, plus de travail. Et puis cette journée...
Nous avons peur. Tenir dans une telle situation n'est pas possible.
On a patienté, mais...
Le fait est que l'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Tu ne vois pas de perspective, tu ne vois pas d'avenir. Ils ont volé notre futur, la Russie a volé notre vieillesse.
Le bus s'éloigne de Mykolaïev, la tension pèse sur tous. Et surtout sur Sacha, le conducteur.
Voilà, chers passagers. S'il vous plaît, détendez-vous, tout va bien, ne vous inquiétez plus. Il nous reste 3 heures avant la frontière. On essaye de faire le plus vite possible.
C'est la dernière épreuve. 4 heures entre les douanes, avant cette triste garantie de sécurité pour tous, hors de leur patrie. Entre Mykolaïev en Ukraine et la Moldavie, Nicolas Tonev, Europe 1.
L'Ukraine, qui a reçu des lance-roquettes américains longue portée, sans en préciser le nombre, ces systèmes baptisés HIMARS ont une portée de 80 km. Ils sont plus performants d'ailleurs que leurs équivalents russes. Dans un contexte de baisse des livraisons de gaz russe, la France veut remplir ses stocks à près de 100% avant le début de l'automne, a indiqué Elisabeth Borne. Un nouveau terminal méthanier flottant sera mis en place l'année prochaine pour réduire justement notre dépendance au gaz russe. Et puis Nike annonce son départ définitif de la Russie. L'équipementier américain avait déjà fermé temporairement ses magasins, qui ne rouvriront donc pas. Nike vient s'ajouter à la liste des marques célèbres qui ont déjà quitté la Russie, comme McDonald's et Ikea, par exemple. Happy birthday, Zizou! Comme ça, ça se chante très bien aussi, vous verrez, car aujourd'hui, Zinedine Zidane souffle ses 50 bougies. Et oui, la victoire des Bleus à la Coupe du Monde 1998, c'était il y a déjà 24 ans. C'est Guy Lacombe qui a découvert Zidane alors qu'il n'avait à l'époque que 17 ans. C'était à l'AS Cannes. Il mesure l'incroyable parcours de Zizou.
Wow, c'est simplement époustouflant, quoi. La carrière qu'il a pu faire, autant en tant que joueur, bien sûr, mais entraîneur également. Moi, je l'ai à 17 ans au centre de formation, donc il jouait dans cette équipe-là avec des gars beaucoup plus vieux que lui. Il avait des qualités indéniablement importantes. Ben, en fait, ça s'est fait avec beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup de sérieux, beaucoup d'amour. C'est un garçon qui aime le football par-dessus tout. Donc, moi, je m'étais aperçu qu'il faisait jouer les autres. Et le jour, on m'a dit, mais... Vous le voyez entraîneur, c'est vrai que je ne le voyais pas entraîneur, mais en fait, sur le terrain, il était comme se doit d'être un entraîneur, c'est-à-dire faire jouer l'équipe. Je lui souhaite un merveilleux anniversaire.
Et bon anniversaire Zizou, beaucoup d'émotions dans la voix de Guy Lacombe avec Cyril Delamorinerie, Zinedine Zidane qui a accordé pour l'occasion un entretien de 18 pages, pas moins, c'est à lire dans le journal L'Équipe. Saint-Etienne lourdement sanctionné après les graves débordements lors du match retour des barrages face à Auxerre qui a scellé sa relégation en Ligue 2, 6 points de pénalité dont 3 avec sursis, ce qui va compliquer bien sûr la remontée de Saint-Etienne en Ligue 1. Deuxième sanction, 6 matchs à huis clos, ce qui va pénaliser cette fois les finances du club qui a annoncé ce soir ne pas faire appel de cette décision de la commission de discipline de la Ligue de foot professionnelle. Et puis la FIFA autorise 26 joueurs par équipe pour la Coupe du Monde 2022, alors que chaque sélection était auparavant limitée à 23 joueurs. La Fédération internationale qui pérennise ainsi cette mesure de flexibilité introduite pendant la pandémie. Le temps pour demain, vendredi, Marlène Duret, des orages toujours, des orages encore, oui. Qui se dirigent cette fois vers le nord-est.
Et oui, l'alerte orange aux orages varie en fonction de l'évolution du temps, et nous, on continue évidemment de suivre le balayage des orages. Et effectivement, en ce moment, ça progresse toujours vers le nord-est. L'alerte reste en vigueur dans l'Yonne, l'Aube, les Ardennes, la Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle et le Bas-Rhin. Et puis dans le sud-ouest aussi, on a quelques orages quand même qui remontent depuis les Pyrénées-Atlantiques vers le Tarn et l'Aveyron. Et donc ces deux derniers départements restent sous surveillance. Et puis nouvel épisode orageux pour demain matin. Ça va débuter en Ardèche, dans la Drôme, pour continuer plus tard en journée en Isère et jusqu'en Savoie, Haute-Savoie. Ces départements sont aussi placés en alerte orange. Elle prendra effet à 10h demain matin et sera valable jusqu'à 16h. Au total, combien, selon vous, Alexandre,
voilà, si
vous
avez tout suivi? Allez,
je vais voir si vous suivez.
Allez, une quinzaine, on va dire.
Oui, bravo. Bon. 15 départements en vigilance orange. Et compte tenu du contexte météo, il y a vraiment un gros risque de grêle. Dans l'après-midi, on a quand même toute la façade est du pays qui sera concernée par des orages. Hein, ça va gronder. Et puis, ça va s'évacuer assez vite. Sur le reste du pays, un ciel plutôt variable, quelques averses. Et puis, une perturbation pluvieuse qui arrive en Bretagne. Elle va traverser le pays ce week-end, d'ouest en est. Les températures maximales seront en baisse, allez, 18 à 21 quand on va vers la Bretagne, ailleurs plutôt 22 à 26 avec un joli 24 à Paris, et puis ça peut monter jusqu'à 29, 30 degrés en allant vers le sud-est.
C'est bon, on est pas mal comme ça. Merci.
On respire.
Voilà, on va marquer une courte pause sur Europe 1 avec Top à Wall Street dans un instant, et puis notre invité éco, Julien Allard, patron de LUM, une start-up spécialisée dans le bien-être mental au travail. À tout de suite.
Europe 1. Alexandre Lemaire.
Top à Wall Street sur Europe 1 avec Didier Hamot. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
De boursier.com. Wall Street qui continue d'évoluer prudemment, hein, malgré quelques valeurs technologiques qui se distinguent.
Ça va quand même un petit peu mieux. Oui, le Dow Jones prend 0,6%, une petite hausse, 30 677 points. C'est surtout le Nasdaq qui grimpe plus nettement d'1,6%. 11 232 points. La réserve fédérale, par la voix de son patron Jérôme Powell, a réaffirmé haut et fort sa détermination à lutter contre l'inflation. De quoi entraîner une détente du marché obligataire ce soir aux États-Unis et un rebond donc de quelques valeurs comme Amazon, plus 3%, comme Microsoft, plus 2,2%, ou Apple, plus 2,1% à 138 $. Ça remonte aussi un petit peu sur Google, plus 0,7%, sur IBM, plus 1%. En revanche, Tesla est stable, 705 $. Le patron du groupe, Elon Musk, s'inquiète des pertes dégagée par ses usines allemandes et texanes. Il y a une valeur qui se distingue, c'est Nike qui monte de près de 3%, $108. Le groupe fait ses adieux au marché russe et se retire intégralement du pays. Le pétrole, lui, reste hésitant. Il est sous les $105 le baril. Exxon consolide, baisse donc de 3%. Le géant pétrolier américain revient à $85,20. L'euro est assez stable. L'euro autour des 1,05 face au dollar.
La bourse de Paris est restée en berne ce jeudi. Encore en repli de 0,5% sur le CAC 40.
Oui, c'était pas terrible. Hein. Moins 0,56%, ça reste effectivement très prudent. 5883 points. Ce sont surtout les valeurs industrielles qui continuent de pâtir des risques de récession qui pointent à l'horizon. On a Plastivaloir, moins 9%. On a dans le secteur automobile Faurecia, moins 6%. Eramet, moins 5%. Arkema, moins 4%. Donc de gros groupes industriels comme Saint-Gobain aussi ou Rexel qui recule de 4%. Et puis les bancaires, les valeurs bancaires en baisse de 4 à 5% pour Société Générale, BNP ou le Crédit Agricole.
Exception du jour, le fabricant de vaccins Valneva qui s'envole de 19%.
Oui, une très très forte hausse, 14,23€. Le laboratoire bénéficie finalement de la recommandation de mise sur le marché européen de son vaccin contre le Covid. Un avis émis par l'Agence européenne des médicaments en pleine résurgence de l'épidémie, on en parlait. Le titre Valneva vient de regagner 91% en l'espace de 5 séances. Valneva ce soir à 14,23€. Les autres places financières sont plutôt en baisse en Europe. Le DAX moins 1,7%, Bruxelles moins 1,5%, Milan moins 0,8%, Amsterdam moins 0,9% et le CAC 40 en baisse de 0,56%, 5883 points.
Merci Didier Hamo.
Europe Nuit. Informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
L'invité éco sur Europe 1, je reçois ce soir Julien Allard. Bonsoir.
Bonsoir Alexandre.
Vous êtes le cofondateur de Loom, hein, on dit bien Loom. Votre start-up est spécialisée dans le bien-être au travail, en entreprise. Ça tombe bien puisqu'on est en plein dans la semaine de la qualité de vie au travail. Alors expliquez-nous justement, quelle est votre tâche au quotidien, Julien Allard? Vous intervenez dans les entreprises à la demande de celles-ci?
Exactement. Notre objectif, c'est de réussir à démocratiser le sujet du bien-être mental dans une entreprise et d'offrir à la fois une expertise humaine, donc avec des psychologues et des coachs qui travaillent avec nous, mais aussi une base de technologie qui nous permet auprès de l'entreprise de pouvoir réunir toutes les informations utiles pour leur permettre d'identifier avec eux les points de vigilance, mais aussi les points de force de l'entreprise et de ses salariés sur le sujet du bien-être mental et de pouvoir proposer, en fonction de ces informations-là, les plans de prévention et les plans d'action les plus cohérents possibles pour venir en aide aux salariés de la manière la plus personnalisée et donc efficace et permettre d'éviter au maximum d'avoir des situations qui dérapent et qui sont toujours, bien entendu, problématiques pour les salariés individuellement, mais aussi pour l'entreprise, évidemment.
Des situations qui dérapent, qu'est-ce qu'on entend justement par santé mentale, qui plus est au travail? C'est assez vaste.
C'est assez vaste. Je pense que la définition de son propre bien-être mental revient un peu à chacun de la définir. Les sujets principaux qu'on traite vont bien sûr être ceux du stress, de l'anxiété, les difficultés à gérer son harmonie entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et puis on peut aller jusqu'à des situations plus inquiétantes et généralement plus pérennes malheureusement que sont celles dont on entend beaucoup parler, les situations de burn-out, les situations de dépression. Et puis pour certaines entreprises, on l'a vu malheureusement dans l'actualité, c'est aller jusqu'à des suicides ou des situations vraiment dramatiques.
Pourquoi une entreprise va-t-elle décider de vous contacter? Est-ce que ça répond toujours justement à une situation de crise chez un employeur? Est-ce qu'il y a aussi des appels de prévention?
Alors, de moins en moins, ça répond à une situation de crise, et bien heureusement. Je pense que si on regarde un peu historiquement l'état du marché, on faisait appel à des lignes de soutien psychologique, à des cellules de crise, généralement, quand il y avait une problématique très identifiée, et on était vraiment dans le curatif. Aujourd'hui, les mentalités côté entreprise et côté salarié, on pourra peut-être en reparler, ont beaucoup évolué. Mmh. Et cette évolution des mentalités pousse chacun à faire beaucoup plus de prévention. Et nous, on se présente vraiment dans cette volonté de pouvoir faire un maximum de prévention. On croit sincèrement au fait que la prévention la plus personnalisée, la plus régulière, la plus proactive possible, oui, va permettre justement d'éviter de tomber dans des situations où on aura besoin de réagir en curatif. Et donc avec bien évidemment des moyens et des résultats qui sont moindres.
C'est toujours l'employeur qui vous contacte ou est-ce que vous vous déplacez aussi à la demande, par exemple, des CHSCT, Julien Allard?
Alors, c'est à la demande de l'entreprise. Maintenant, l'entreprise, ça peut être la direction des ressources humaines, ça peut être les CHSCT, ça peut être les CSE, ça peut être aussi les managers. la situation des managers quand il y a une difficulté liée au bien-être mental dans l'équipe, c'est quand même le manager qui est souvent en première ligne. Hein. C'est le ou la manager qui va souffrir du désengagement d'un salarié, peut-être d'une absence prolongée. Donc ça peut venir de différents niveaux de l'entreprise. Ça peut même venir directement des salariés, hein, qui vont s'intéresser à des solutions les concernant, les découvrir, voir qu'il existe en effet des choses que l'entreprise peut mettre en place. Et à ce moment-là, ça peut être voilà, poussé directement par la base, je dirais, du bas vers le haut, pour pousser l'entreprise à avoir une démarche un peu plus bienveillante sur ce sujet-là.
Alors justement, les solutions, quels sont très concrètement les leviers que vous allez proposer pour un meilleur bien-être mental sur le lieu de travail quand vous constatez, quand vous vous déplacez en entreprise et que vous voyez qu'il y a un problème?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a une phase d'analyse qui est possible. Nous, on le fait grâce à un baromètre du bien-être mental qu'on met en place auprès des salariés. C'est un questionnaire assez rapide, assez ludique sur les grands sujets du bien-être mental, la gestion du stress, de la relation aux autres, de l'organisation. Ces baromètres, ils nous permettent surtout d'identifier une sorte de photo à un instant T de l'entreprise et d'identifier les sujets principaux qui concernent les salariés de cette entreprise. Peut-être sans aller au niveau individuel, peut-être de réussir à les catégoriser en disant, mais voilà, ce site ou cette typologie de salariés souffre plus ou moins sur tel et tel item, et de proposer un plan d'action. Et dans ce plan d'action, là, les éléments concrets, ça va être bien sûr de l'accompagnement individuel, mis à disposition de psychologues, de coachs qui peuvent aider sur les différents sujets qui concernent les salariés. Ça peut être de l'accompagnement de groupe également, avec des formations, des ateliers. Et puis, il y a toute cette démocratisation, comme je disais en introduction, du bien-être mental dans l'entreprise, à laquelle on pousse beaucoup en proposant des plans de communication autour du bien-être mental. Pour le bien-être mental, tout le monde en parle, on l'a vu dans la bouche de tous les candidats à l'élection présidentielle. Vous voyez, on a l'occasion d'en parler ce soir sur une radio de grande écoute, mais c'est pas forcément le sujet le plus facile à aborder en entreprise. Donc on va essayer aussi de faciliter ce vocabulaire, cette capacité à en parler dans l'entreprise et à donner cette image bienveillante et protectrice que l'employeur veut avoir.
Ils sont assez formés, les managers, dans l'ensemble, à l'écoute de leurs équipes ou pas du tout? Est-ce que là, on voit un trou dans la raquette de la formation?
Mais vous savez, c'est une question de compétences émotionnelles. Les compétences émotionnelles, en tant qu'être humain, on en est tous doués, et tant mieux. Maintenant, ce sont des choses qui s'entretiennent, ce sont des choses qui se développent. Donc, en fonction de... On va avoir un accompagnement foncièrement différent entre un jeune manager qui n'a jamais été manager, peut-être propulsé un peu là, quand on travaille avec des startups ou des scale-up, on devient un peu manager par la force de la croissance de l'entreprise, je dirais.
C'est un métier à part entière, manager, en fait, c'est ça qu'on ignore trop souvent.
Bien sûr. Oui. C'est un métier à part entière qui nécessite, sur le sujet du bien-être mental, en tout cas c'est notre croyance, un accompagnement bien spécifique et un développement de compétences bien spécifiques, parce qu'il y a, il faut pas s'oublier à soi en tant que personne, et puis il faut être capable d'accompagner ceux qui nous entourent au quotidien et qui travaillent avec nous.
Vous êtes un peu une vigie hein, chez Loom, Julien Allard, de la santé mentale au travail. Ils vont comment les salariés aujourd'hui, pour ce que vous pouvez en voir? Beaucoup de stress, beaucoup de pression, des situations de détresse ou...
Je pense que la chose qui a principalement évolué ces derniers temps, c'est le rythme, c'est la pression et c'est l'évolution permanente du travail. Si on fait une petite marche arrière juste avant le Covid, on parlait quasiment pas de télétravail, ou en tout cas c'était des situations un peu exceptionnelles, on ne savait pas encore ce que c'était que connaître l'intimité personnelle des appartements, des maisons de chacun de nos collègues, parce qu'on a passé des heures sur Zoom, on n'avait pas forcément des marchés qui avaient évolué autant. Maintenant il y a des éléments aussi forts dans l'actualité économique et politique qui ont un impact fort. Donc je pense qu'il y a une pression et il y a une volumétrie de choses à engranger et emmagasiner qui est démesuré. Si on prend ne serait-ce que la relation qu'on a avec notre téléphone portable, on a dans la poche en permanence et des sollicitations à toute heure du jour et de la nuit. Ça, c'est des choses que les générations précédentes n'ont pas connues. Donc évidemment, ça a un impact en particulier sur le mental des salariés, et il faut savoir préparer ces salariés à ça.
Bien, merci. Merci Julien Allard pour toutes ces explications sur le bien-être mental en entreprise. Co-fondateur de Loom, start-up spécialisée.
Merci de votre invitation.
Merci à vous dans la santé mentale sur le lieu de travail. 22h29 sur Europe 1. Dans un instant, les unes des quotidiens et puis la libre antenne d'Olivier Delacroix.
Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Les unes de la presse, demain vendredi, Macron isolé après le non des oppositions. C'est la une du Figaro. Les Républicains, le RN et la NUPES, vous le savez, ont opposé une fin de non-recevoir aux demandes de clarification formulées par le chef de l'État, et donc l'impasse demeure. Au fait, où est-ce qu'elle en est la réforme des retraites? C'est la une de l'opinion. Est-ce que c'est un totem ou est-ce que c'est tabou? La réforme des retraites, le chef de l'État n'en parle plus. Est-ce qu'il a renoncé au recul de l'âge légal à 65 ou 64 ans? Ou bien est-ce qu'il cherche à gagner du temps pour trouver un éventuel chemin. Là encore, nous sommes dans les non-dits, écrit l'Opinion. Des vacances à tout prix, l'été 2022 qui s'annonce exceptionnel en France en matière de fréquentation touristique, malgré des coûts de transport et de séjour qui sont souvent à la hausse, c'est-à-dire dans la Croix. Et puis moins réjouissant, la délinquance à Paris et les touristes pris pour cible, c'est-à-dire dans Aujourd'hui en France. Le retour des visiteurs étrangers entraîne une hausse spectaculaire des vols et des agressions dans la capitale, au point que la préfecture de police décide de renforcer ses moyens sur les sites sensibles. C'est aussi, et bien sûr, une question d'image hein, après les incidents du Stade de France et à 2 ans maintenant des Jeux Olympiques. 22h30, vous êtes sur Europe 1 et vous retrouvez sans plus tarder la Libre Antenne avec Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier.
Bonsoir mon cher Alexandre.
Comment ça va?
Ça va très bien. Ce Stade de France, hein, vous voyez?
Bien sûr,
Stade barré, de France. Vous dites barré, mais oui. Mais on a voulu mentir sur cette histoire. On a voulu enfumer les Français, les Anglais, les Espagnols.
Alors, mentir, je ne sais pas, mais très factuellement, retarder la prise en compte des plaintes des gens de Liverpool, par exemple, qui se sont exprimés, mais après plusieurs semaines devant le Sénat, par exemple.
Mais quand je vous dis qu'on a menti, vous me dites on a retardé. Pas l'enfant. Je vous en prie. Ne faites pas l'enfant. On a un ministre de l'Intérieur qui a menti le soir même. Est-ce que vous pensez une seule seconde que le préfet, qui prend une très mauvaise décision, vous savez, le soir...
Ça vient de là.
Ouais, mais vous pensez qu'il ne le dit pas à son ministre de l'Intérieur le soir
même?
Mais
ça vient de là. Ça vient de la priorité donnée à la gestion de la foule plutôt qu'à celle de la délinquance sur la voie publique.
Vous pensez que le préfet de Paris dit à Darmanin: au fait, monsieur le ministre, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire un truc, genre 2-3 jours plus tard. Non. On a voulu mentir.
Vous savez quoi, je pense, et vous commentez. Voilà.
Exactement. Mais encore une fois, ça n'engage que moi.
Mais bien sûr.
Je trouve que cette... Voilà. Et vous voyez, je pense réellement que là, on a l'exemple type de ces politiques qui sont complètement déconnectées de la réalité. Parce que finalement... je pense que le ministre de l'Intérieur aurait pu parler de manière très claire ce soir-là et dire qu'il y avait eu erreur de fait, au lieu de charger les uns et les autres, et ça serait passé.
Le mea culpa est arrivé, mais alors bien plus tard.
Un mois et demi après.
Un mois après. C'est pour ça que je vous parlais de, à tout le moins, d'un retard qui a été pris dans la prise en compte.
Mieux vaut tard que jamais. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Voilà. Vous avez raison. On pourra reconnaître donc. Monsieur Darmanin, c'est lui qui a reconnu les erreurs ou même pas ?
C'est le préfet de police.
Ah bah oui, bah tiens. Voilà, tout est dit. Bon. J'aime bien qu'on se fasse cette petite analyse de rentrer vraiment à nouveau dans la réalité.
Dans le vif de votre sujet.
Et dans le vif du sujet qui est l'humain. Écoutez, on vous retrouve à 23h pour de nouvelles analyses.
À tout à l'heure, Olivier.
À tout à l'heure.